on s'est dit, tiens, c'était plein de rez-de-chaussée, c'est toujours plein, la ville tout entière de rez-de-chaussée, vacant, totalement dévalorisé, etc. Et là, on s'est dit, voilà, ça, c'est un sacré problème, que la rénovation n'avait absolument pas intégré dans sa démarche. C'est-à-dire, il y avait l'habitat, il y avait l'espace public, mais rien sur les rez-de-chaussée. Et ça, c'est fréquent. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, on s'est dit, ben, on était aussi... Oui, alors, il y a un autre acteur aussi qui a joué un rôle là-dedans. C'est une équipe d'amis, quoi, qui anime le salon Tatou Juste. Alors, le salon Tatou Juste, c'est un truc qui a lieu toutes les années. Il va avoir lieu au mois de novembre, là. C'est, il prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, c'est, l'idée, c'est tous les gens qui veulent faire des métiers, exercer autrement leur métier, ils viennent le dire, ils viennent le montrer au salon. Alors, c'est pour éduquer les enfants autrement, c'est construire autrement, c'est faire de la vidéo autrement, c'est etc. quoi, des artisans, un bricolage pas possible, énergie autrement, voilà, c'est on n'aime pas le mot alternatif, nous. On préfère dire autrement, parce qu'alternatif, après, on est sur autre chose. Qui, à mon avis, d'ailleurs, est politiquement beaucoup plus puissant pour faire évoluer pour la transition de la société. Alors, ce salon Tatou Juste, la première année où j'y ai participé, c'est l'année où on avait créé les AMAP. Et on voit tout ça, on dit, mais attends, tous ces gens-là, ils travaillent où? On les voit jamais. Ils apparaissent dans la lumière le jour du salon. Et on se dit, savoir s'ils ne cherchent pas des locaux. Et du coup, on s'est dit, des acteurs qui ont besoin d'apparaître quand même dans l'espace public, des porteurs de projets, on disait, des locaux à moitié pourris, il faut que ça se rencontre. Alors le problème, c'est que les locaux à moitié pourris, ils appartiennent à des propriétaires, que les agents immobiliers ont persuadé que leur local avait de la valeur. Alors on a développé tout un argumentaire simple qui consiste à dire... Alors c'est très difficile tout ça. Hein. On s'est aperçu après. Hein. On n'a pas voulu commencer... on s'est aperçu que... on s'est dit aux gens, dites donc, votre local, on vous a dit qu'il valait 90 000 euros, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vendu? 20 ans. Ah bon? Ben, il ne vaut pas 90 000 euros, ouais, puisqu'il ne se vend pas à ce prix. Et alors, on a inventé, enfin, on a mis au point une théorie de la valeur par l'usage, c'est-à-dire qu'on faisait des propositions à partir de la valeur que dégageait de ce que pouvait consacrer une activité à un local. Voilà, c'est vide. Lui, il cherche, mais il peut donner 120 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, il dit, oh, c'est pas possible et tout. Et puis après, il y en a qui se sont dit quand même, merde, je paye la taxe foncière, je paye des tas de trucs, et là, j'encaisse aucun revenu, tout est pourri. Alors, c'est mis en route tout un système de... Alors, on s'est dit, à plusieurs pauvres, on est moins pauvres, donc... il y a eu l'idée de mutualiser, de s'entasser au maximum dans le même local, parce que 6 fois 100, ça fait 600, alors là, c'est déjà plus pareil. Et puis, on peut partager les machines, le photocopieur, les ordi, le chauffage, les coûts, l'assurance et tout ça. Et donc, on a créé un petit outil pour acheter des rez-de-chaussée pas chers. Mais en fait, on en a très peu acheté parce que les propriétaires ne souhaitent pas vendre. Et du coup, on a créé une espèce de société solidaire de location, c'est-à-dire elle loue, alors attends, nous, toujours le plus bas possible. Hein. Et après, elle sous-loue à des... Eh ben, à des porteurs de projets qui sont d'accord pour être dans le même local. Et là, on est à 6-7 locaux quand même aménagés. Hein. Donc voilà, et tout le monde s'est dit, ben quand même, hein, c'est pas... Alors, auto, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche pour que ce soit pas cher? C'est que le loyer soit bon, et puis effectivement, que les travaux soient très bon marché. Donc plus il y a d'autoconstruction, mieux c'est. Et on met la main à la pâte, voilà, les gravats, les machins, la démolition. Alors on vient d'en faire, il y en a un, là, c'est des designers, alors il n'y a pas eu de problème, ils ont pris en main tout le temps. Donc il y a l'idée d'auto-construction. On retrouve l'habitant qui prend des trucs en main, quoi. Et puis il y a toute une série d'associations qui s'empilent, enfin, qui partagent les bureaux, et on s'est aperçu, si vous voulez, que d'une manière générale, l'espace est totalement sous-utilisé. Mais ça, je le savais, moi, à cause de mon métier. C'est que la plupart des espaces, notamment en France, sont totalement sous-utilisés. Par exemple, on avait accueilli un type très intéressant de Fribourg, le quartier Vauban. On y était allé aussi, on avait échangé pas mal. Hein. Ils sont allés très loin, eux, là-dessus. Et j'avais eu un mal fou à lui faire comprendre que là, c'était un centre social, et là, c'était l'école. Et il me disait, mais alors, attends, quand les gosses sont au centre social, l'école est vide, et inversement, pourquoi vous n'utilisez pas l'école comme centre social, puisque quand les gosses sont pas à l'école, elle est vide. Mais ça, c'est la France. C'est français, c'est fonctionnel. Chacun chez soi, Dieu pour tous, et on est dans une merde pas possible. C'est pour ça qu'on fait des déficits de partout, nous. Déjà, on ne sait pas faire, et en plus, on veut de chacun son truc. Bon. En plus, c'est toujours réglementé, le privé, le public. Donc voilà un petit peu tout le petit système. Alors, c'est très, très... Alors, c'est un assemblage d'associations qui se... Nous, quand même, c'est mobilisation par projet, le système. Hein. Plutôt que d'avoir des structures permanentes, c'est un peu à géométrie variable, c'est-à-dire il y a ça à faire, ben, toc, 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 qui veut venir d'abord, et puis qui est le plus qualifié, on y va. Alors, notre petite démarche, on a eu une bonne surprise, c'est que on avait répondu à un petit appel pour le, je ne sais plus ce que c'est, un prix pour l'action dans les quartiers qui était donné par l'ANRU. Et puis dedans, il y a Vinci, tout ça, là, tous les... Bon. On répond, on est convoqué, et puis on a gagné les deux prix. Il y avait un prix bon intérêt de l'action locale, et le deuxième, c'était un prix national de l'intervention originale et efficace dans les quartiers dévalorisés. On n'en revenait pas. Et moi, je me rappelle, j'avais posé la question, donc on avait planché devant un jury, qui était un jury qui n'était pas facile... Et du coup, quand on a vu qu'on avait les deux prix, moi j'avais demandé à un type du jury, c'était un haut fonctionnaire qui était à l'ANRU, là j'ai dit, c'est bizarre, parce qu'il y avait des projets quand même beaucoup plus conséquents que le nôtre, avec, il y en avait à 6 millions d'euros, mon pauvre ami, 6 millions d'euros, nous, c'est nous, 10 000, ouais, déjà, c'est là, c'est, on en fait un grand morceau. Il me dit, mais donc, justement, c'est pour ça que, voilà, c'est à cette échelle-là, nous, on ne sait pas faire. Avec nos grosses machines, on ne sait pas faire.
Le micro-local.
Le micro-local, la mobilisation, aller voir les propriétaires pour les convaincre que ce machin est pourri, il ne vaut pas ce qu'on lui a raconté, qu'il faut tout qu'il repense, sa logique de patrimoine par rapport, voilà, par rapport à l'économie globale, etc. Il y a un énorme travail à faire, hein. Parce que sinon, ça, les trucs pourrissent sur pied, quoi.
Ouais, c'était difficile de les convaincre, je suppose. Hein,
très difficile. Mais il y en a qui... Alors, il y en a, ça va. D'autres... Et puis, on a quand même tous les agents immobiliers qui sont payés pour faire croire aux gens que leur truc vaut cher, quoi. C'est quand même ça, si vous voulez. Hein. C'est une espèce de... un héritage. Mais ce que je crois, franchement, c'est que l'immobilier, en France, tel que c'est-à-dire conçu comme une source de revenus... Là, on se flingue, là. Moi, j'avais bossé en Italie, alors un peu en Allemagne, mais des échanges. Là-bas, l'immobilier, c'est quand même d'abord une affaire d'architecture, d'ingénieur, en général. En France, c'est une affaire d'immobilier, d'agent, d'investisseur, etc., quoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, après, moi, j'ai regardé de près, dans des immeubles comme on a ici, pas terrible, avec des gens pas riches qui payent des petits loyers, l'immeuble, eh ben, les loyers, ils payent l'entretien d'immeuble. Si vous voulez prélever un revenu dessus, prenons il y a beaucoup, hein, 6, 7, 8 logements, un retraité qui veut prélever là-dessus 20 000 euros par an, par exemple, pour sa retraite et tout, même 15 000, il n'entretient pas l'immeuble. Il n'entretient pas. Donc l'économie de l'immeuble est faussée. Et tous les 30 ans, il faudra que l'État revienne pour tout refaire. Mais ça, ça ne peut pas marcher avec des fleuves d'argent public. Hein. Moi, j'ai vu dans le quartier du Crédroc des immeubles qui avaient déjà été rénovés dans une OPH de 1980 avec du 70% de taux de subvention rebelote en 2005-2006. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. Donc il faut être clair. Un immeuble, c'est peut-être un patrimoine. Je le revends, j'ai de l'argent. Mais la vraie économie d'un immeuble, c'est les loyers pour l'entretenir, pour peut-être le développer, pour le transformer, pour le faire muter dans le temps. Des bureaux, des logements, agrandir logements, les réduire, changer les parties communes, le mettre aux normes. Thermique, etc., environnemental, mais autrement, source de revenus, non. Là-dessus, en France, sauf que c'est un énorme problème, parce que, allez voir la Défense à Paris, les grands investisseurs, les mecs qui gèrent l'investissement immobilier, ils ont tous des bureaux dans les chouettes tours. Hein. Voilà. Et donc, moi, je crois que là, on est vraiment pas bien, quoi. Hein. En plus, ça fait monter les prix, tout ça. Et puis, quand les prix sont trop élevés, mais il n'y a personne qui habite. Hein. Et là, l'économie de l'immeuble, elle est morte. Mais la société de location solidaire est un outil précieux, je pense. Parce que, si vous voulez, elle rassure le propriétaire. Parce que même si les porteurs de projets ne restent pas pour X raisons, ils se développent, ils font faillite, ils partent, ils changent d'avis, la société solidaire, elle continue à verser le loyer. Elle est obligée de se bouger pour trouver un autre porteur de projet qui prend la part. Ouais. Espèce de garant. Ça, c'est un bon outil, ça. C'est un super outil que je pense les pouvoirs publics devraient soutenir. Ils n'ont pas envie de le faire. Et puis, enfin, ça va être long, mais je crois qu'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas aussi.
Ils ne sont pas convaincus ? Vous avez une raison ?
Non, moi je vous dis franchement, j'ai longtemps pensé qu'ils étaient contre, qu'ils n'étaient pas convaincus. Ce que je crois franchement, c'est qu'ils ne comprennent pas parce que leur diagnostic n'est pas bon. Ils n'ont pas diagnostiqué. Si vous voulez, ils ont une lecture de la réalité à partir de la couche qui gère la situation actuelle, hein, et qui la gère d'une manière qui est en train de crever, hein, qui est complètement dépassée. Et il faut se décaler complètement pour avoir une autre approche. Et ce décalage, les élus n'arrivent pas à le faire. Les institutions ont un mal fou à le faire. C'est difficile, hein, d'ailleurs. Hein. C'est difficile. Hein. Changer d'avis, quand on a été dans une routine toute sa vie, les agents immobiliers, la société d'économie mixte, l'État comme si, qui négocie avec le privé comme ça, etc. Les bailleurs sociaux, chacun dans sa case et tout, les financements, ça tourne. Même si on sent que le truc, il a plus de rendement, quoi. Il coûte une fortune. Vous avez quand même des... Comme je vois, je me dis... C'est de la chance, hein, qu'on a eue. C'est après qu'on s'aperçoit qu'on a fait un truc intéressant. On ne sait pas ce qu'on fait, en fait. Moi, je crois beaucoup à Hegel, il dit ça. Il dit, on est vachement fort quand on est beau. C'est après coup qu'on dit, on se retourne. Putain, c'est bien. Hein, on dit, voilà la théorie. C'est vrai, on a tous envie de dire, moi, j'avais un projet, voilà mes décisions. En fait, c'est pas vrai, pas en ce moment, en tout cas. On y va au pif, ça marche, toc, 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 ça toc, là, ça va pas. Donc j'essaye autre chose, et puis après, voilà, on trouve un peu une cohérence. Mais faut pas trop non plus bâtir des outils trop rigides à partir de cette expérience-là. Ailleurs, elle marche peut-être pas du tout. Hein. Donc, mais c'est... là, vraiment, je me fais du souci. Je pèse mes mots, hein, parce que vraiment... là, on a trouvé des élus, même sympas, qui ne comprenaient rien au truc. Ils ne comprennent pas comment ça peut... Eh oui, mais ils disent, attendez, votre truc, oui, c'est bien beau, mais ça repose sur le bénévolat. Ouais, oui, mais ben oui. Sauf qu'ils ne comprennent pas que c'est peut-être... Si on crée des outils de bric et de broc pour résoudre des problèmes que des outils avec d'énormes moyens ne savent pas régler, c'est pas nous qui allons pas. C'est des gros outils avec les énormes moyens qui n'arrivent pas à régler le problème, qui sont en crise. C'est ça le problème. C'est tout, hein. Sinon, moi, on aimerait bien nous distribuer un salaire de 3 000 euros net à tous nos copains. On peut pas. Voilà.